R22, tout le monde. Antenne, tout le monde.
Bonjour et bienvenue à cette deuxième table ronde de la journée. Nous avons ici la présence de Natacha Petrichine-Bachelet, qui est commissaire indépendante. Elle est commissaire de la Contour Biennale 9 en Belgique et prépare donc une exposition consacrée aux vidéos de l'actrice et militante Delphine Seyrig. Natacha, elle est aussi enseignante. Elle a été co-directrice des laboratoires d'Aubervilliers et cofondatrice des Clusters, un réseau européen d'institutions artistiques. Donc, Natacha, elle va parler en premier. Ensuite, on va passer la parole à Wagner. Wagner, qui est artiste, chercheur, il est documentariste et commissaire indépendant. Il est le fondateur de la galerie La Maudite. Il a aussi travaillé comme commissaire pour la Biennale de São Paulo. Je pense qu'on va peut-être vous passer la parole librement. Et après, peut-être on peut poser certaines questions. Voilà. Donc, Natacha, tu peux commencer.
Merci pour l'invitation. Bonjour à tout le monde. Donc merci aux organisatrices, organisateurs de cette journée. On est là pour parler un peu de nos statuts, de comment on travaille en tant que soit commissaire indépendante, qu'est-ce que ça veut dire. Et j'étais très inspirée donc d'écouter juste avant nous. Ce débat très intéressant qui m'a beaucoup fait penser d'où je viens. Donc, je suis née en Slovénie, c'était encore la Yougoslavie à l'époque, où l'autogestion était un rêve mené pendant plusieurs années, encore sous la vie de Tito. Donc, ça a marché. Il y avait des moments de... où ça a marché, ça a produit quelque chose. Mais une autre chose, parce que je suis née en 76, une autre chose qui m'a beaucoup marquée dans ma vie, c'était évidemment la guerre civile qui a éclaté en 91 en ancienne Yougoslavie et qui m'a beaucoup marquée. Une partie de ma famille vient de Bosnie et le plus que ça va, le plus je me rends compte que j'avais 16 ans, donc c'est un moment où je reviens maintenant en fait constamment en regardant ce qui se passe en Europe, au niveau des changements, des migrations, des fuites de guerre, de chercher comment vivre en fait. Pourquoi je dis ça, c'est parce que dans mon travail en tant que commissaire d'indépendante, c'est un travail en fait d'une grande dépendance. Donc, on est appelé soit independent curator, soit freelance. Donc, tous ces termes qui, à partir des années où moi j'ai connu donc la guerre, c'était en fait les années 90, c'était un grand moment d'internalisation, pardon mon français, excusez-moi, je vis ici depuis 15 ans, donc je sais mon meilleur, et de cette promesse de globalisation, d'une mise en échelle soi-disant où on sera tous des sujets nomades, mobiles, donc cette idée de mobilité, d'être nomade, qui était beaucoup théorisée par Sueli Rolnik ou Brian Holmes à l'époque, par exemple, ça a donné une sorte de promesse de cette jeune profession qui était le commissaire d'art indépendant. Donc indépendant, soi-disant, des institutions qui un peu circulent autour du monde, qui vient, comme Thiago a dit, comme j'ai adoré cette métaphore de cirque, parce que ce que nous voyons encore aujourd'hui dans notre monde de l'art, où nous fréquentons des biennales, des expositions, etc., de grande ampleur, c'est un cirque. C'est un cirque qui dure 3 jours, où le monde arrive de partout. Par exemple, je me réfère beaucoup à la Biennale de Venise, comme un cas exemplaire complètement obsolète, où personne ne se demande sur notre empreinte carbone ce que ça veut dire de venir pour 3 jours de partout dans le monde, repartir, juste pour faire ce sort de des échanges qui sont en fait devenus de plus en plus hystériques, puisqu'on se cogne, on se dit bonjour, on passe vite, on ne voit pas d'art. Donc c'est quelque chose que j'ai vu. Donc en tout cas, à partir du moment où je me suis inscrite dans ma tête de cette promesse de ce que ça va être le changer, parce que évidemment avec cette expérience dure qui a été donc de voir son pays s'éclater en guerre civile, j'ai eu toujours, en m'appuyant sur l'histoire de l'art contemporain dans cette région, qui a été menée par beaucoup d'artistes qui ont vu l'art comme un véhicule politique, comme un véhicule d'une possibilité de changement, où beaucoup d'artistes ont contribué à changer le climat social, climat libéral. Par exemple, dans le cas de la Slovénie, il y avait un groupe d'artistes qui s'appelait Neue Slovenische Kunst, qui consistait du groupe Irvin, du groupe musical Laibach et d'un troupe de théâtre. Ils ont, aujourd'hui, c'est en fait un fait de dire qu'ils ont contribué à changer la mentalité des gens quand ça s'est approché à un moment de l'indépendance de la Slovénie, par exemple. Donc, du coup, cette idée qu'avec chaque projet que je commence à faire, c'est, disons, une piste. L'autre piste qui était importante pour moi, c'était le fait que mon père est un scientifique. Il travaille sur la pollution des eaux. Il est aussi ce qu'on appelle math professor, donc il est inventeur aussi. Il s'appuie beaucoup sur les écrits de Nikola Tesla. Et c'est aussi quelque chose qui me vient de plus en plus sur dans tout ce que j'ai fait, puisque j'ai travaillé depuis fin années 90 avec un artiste qui s'appelle Marco Pelhan, qui est aujourd'hui professeur à Santa Barbara, UC, University of California, et qui travaillait sur long terme dans un projet qui s'appelait MacroLab, qui faisait partie de, donc, un proche ami de Brian Holmes, ou de, par exemple, si vous connaissez Bureau d'études, le collectif. Donc, il établissait un projet de long terme, de longue durée, qui permettait les chercheurs, chercheuses, artistes de travailler ensemble dans un environnement isolé, isolé sur un territoire par exemple rural, d'être autonome dans les énergies, donc autosuffisant. Il y avait des panneaux solaires pour générer les énergies. Donc, c'était sur l'écologie, mais en même temps, ce qu'il produisait, c'était travail sur la surveillance, télécommunication, migration des humains, des non-humains et des non-humains. Et c'est quelque chose qui m'accompagne encore aujourd'hui dans tous les projets sur lesquels je travaille. Je vais vous montrer après. C'est la question de l'écologie, mais en comprenant ce système d'écologie comme quelque chose qui n'est pas déraciné de notre société, donc de nos problèmes sociaux. Donc ces deux pistes-là, définissent ma conception de comment je m'approche en fait aux invitations qui sont faites à moi en tant que Natasha Petrichin-Bachelez. Et c'est en fait avec chaque projet, j'essaie de le situer dans le contexte dans lequel je suis invitée. Ça veut dire prendre le temps. Donc j'essaie de créer des conditions où le temps peut être étendu et qui dépasse aussi disons, ce que c'est juste faire une exposition, donc venir plusieurs fois, installer les œuvres. Donc c'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. J'essaie toujours de mener en fait un dialogue avec l'institution qui m'invite pour voir comment elle travaille, comment, quel est le climat institutionnel, de presque faire une sorte de, si vous voulez, une psychiatrie institutionnelle dans une volonté de penser ensemble comment on pourrait travailler mieux. Et qu'est-ce que, ou comment on travaille et comment nos pratiques en tant que travailleurs ou travailleuses culturelles ne sont pas durables, mais genre pas du tout. Et donc comment on peut limiter nos déplacements. Donc on a beaucoup entendu de déplacements, mais est-ce que c'est nécessaire dans la biennale là, que je vais vous très courtement présenter? J'ai limité par exemple le périmètre et le 85% de tous les contributeurs viennent par train ou par vélo parce qu'ils habitent en Belgique ou autour. Donc je cherche en tout cas à faire un défi à moi-même pour voir est-ce que c'est tenable, est-ce qu'on peut produire. Est-ce qu'on peut prendre ces invitations pour produire quelque chose qui peut mener à un changement plus systématique, disons, de comment on travaille?
Wagner, tu veux, je te passe la parole.
En fait, tu ne pourrais pas tout parler avant et après je continue parce que j'avais préparé une présentation plus carrée, je ne sais pas, sinon...
Peut-être pas, parce que...
Tu peux continuer.
Oui, ouais. D'accord, après, ok. On y va, je vais vous...
Donc, c'est ça.
Quand je vous ai... Si ça vous va? Ouais, non, ça va. C'est très bien comment on voit ça, d'accord. Non. Tu sais peut-être... Oui, et après c'était ça. Et c'est le site de la Biennale de Contour, mais d'où je viens pour venir jusqu'à comment j'ai essayé de penser parce que nous sommes nous sommes membres d'une communauté qui, comme j'ai expliqué, est forcée en fait de voyager pour produire. On n'est pas forcé, mais pour tenir nos économies, pour répondre à besoin de survivre. Une des grandes difficultés est en fait comment ne pas être... comment approcher différemment, disons, le besoin de se déplacer. Et les biennales font partie de cette grande... grand tourisme culturel qui est donc dont la biennalisation fait partie et qui donc génère ce phénomène de cirque que donc j'emprunte de Thiago la métaphore. Mais je voulais vous juste montrer parce qu'avec la biennale de Contour, ce qui m'a poussé à penser, c'était comment on peut situer une biennale dans un contexte où la biennale se passe, dans le sens où elle peut dépasser avec son activité, elle peut laisser quelques traces, et pas forcément les traces dans le concept de l'anthropocène, donc comme quelque chose où on a un impact plutôt toxique dans l'environnement dans lequel on produit, mais plutôt quelque chose qui peut rester ensuite pour les prochaines éditions à venir. Donc, comme vous allez voir beaucoup de plantes, donc ça m'intéresse beaucoup à travailler avec les organismes vivants, puisque ils nous obligent à les concevoir comme les êtres vivants, comme quelque chose qui ne s'arrête pas quand l'exposition s'arrête. Donc, en fait, ça ne s'arrête pas quand l'objet est parti d'un endroit. Quand on était co-directeur, co-directrice des laboratoires d'Aubervilliers, nous avons invité l'artiste slovène Marietica Potrč, qui est connue pour travailler sur les projets qui sont à mi-chemin entre l'anthropologie et l'architecture, mais l'architecture faite par les citoyens. Donc, et souvent, elle se penche sur les zones qui ne sont pas habitées, comment les habiter ensemble avec les collectifs, avec les co-citoyens. Et nous avons créé un jardin qui s'appelle la Semeuse, un jardin de partage, qui est ce qui habite maintenant sur la dalle. Ça, c'était le tout début. Et aujourd'hui, ce jardin, il s'est vraiment répandu. Si vous connaissez les laboratoires d'Aubervilliers, quand vous y arrivez, vous voyez toute une structure. En fait, c'est les traces de ce que nous avons mis en place avec Marietica. Et c'était en fait aussi pour... donc voilà, ça, c'est déjà la deuxième phase. C'est aussi quelque chose qui me touche beaucoup, puisque c'est un projet qui a été repris par les autres directions. Donc nous, on était là pendant 3 ans. Et à cause de sa vie, à cause de la vie des plantes, si on peut dire comme ça, et parce que ça, qu'est-ce que ça a emmené, c'était, on a même par exemple dans la structure elle-même, on a pu établir un nouveau poste dans l'équipe elle-même, qui est la poste de l'éco-animatrice ou l'éco-animateur, qui s'occupe de la semeuse à presque temps plein. Donc c'est quelque chose qu'on a mis ensemble avec le projet pour répondre à ce que nous avons entendu juste avant, donc des modèles économiques. C'est nécessaire de penser en fait comment tenir en route ce type de projet. Donc ce projet continue à vivre, et donc la toute dernière direction, je suis donc contente de dire que après, ça va être 10 ans depuis que, en 2020, depuis qu'on est venu à la direction, ils ont envie de refaire une sorte de revivre un peu les débuts du projet. En 2013, j'étais invitée à retourner vers mon pays natal, donc vers ma ville natale, Ljubljana, en Slovénie, où le musée d'art contemporain fait la triennale d'art contemporain en Slovénie. Et de nouveau, c'était un moment où en Slovénie, c'était les répercussions de 2008, donc la crise financière. Il y avait un gouvernement de droite, presque extrême droite, avec beaucoup de protestations à ce moment-là. Je me suis penchée vers la toute nouvelle génération de jeunes graphistes, de jeunes artistes, pour regarder comment, dans ce milieu qui est extrêmement riche en culture, donc Slovénie c'est un petit pays, on est 2 millions, il y avait ce mythe qu'on était toujours la Suisse des Balkans, je ne sais pas d'où ça vient, franchement, rien à voir. C'est un pays qui est aujourd'hui complètement corrompu et qui ne donne vraiment, qui donne, pour vous donner des chiffres, par exemple, pour une jeune artiste qui essaye de faire quelques projets, il ou elle reçoit, si elle a de la chance, entre 2 000 à 4 000 euros par an pour faire des projets. Donc comment vous voulez que ça survive? Il n'y a pas d'économie. Et tout vient de l'argent public, puisque la sphère privée est très, très sous-développée. Donc du coup, j'ai nommé la triennale la résilience, puisque pour moi, ces jeunes créateurs et créatrices étaient absolument en résilience, dans le sens où c'était plutôt, aujourd'hui, quand je pense, c'était pas peut-être le meilleur concept, c'est les survivors. C'est les gens qui ont 3 boulots à la fois et qui font l'art comme un métier de hobby. Donc le soir, quand ils ont le temps, ils s'occupent des films, etc. Pourtant, ils produisent des projets qui sont montrés à la Biennale de Venise, etc. etc. Donc... j'ai fait aussi cette invitation aussi à l'institution pour essayer de voir si l'institution elle-même, elle pourrait aussi concevoir cette triennale comme quelque chose qui peut tenir après, une fois que de tenir ces relations qui se mettent en place pour que ce soit plus durable de nouveau. Donc du coup, j'étais très frustrée. Là, c'était donc juste un projet. Donc le budget était, par exemple, on a eu un budget qui englobait tout, tous les honoraires, l'argent de production, etc., qui était de... c'était aussi mes billets de Paris vers Ljubljana. Et pour un an et demi de travail, 30 000 euros. Donc, pour vous donner déjà le cadre. Donc, les artistes qui ont reçu, par exemple, 400-500 euros de la production, ce groupe, ce collectif-là, par exemple, il a décidé d'acheter de la terre et de la verser devant la porte que vous voyez là, en fait, du musée d'art contemporain à Ljubljana, avec la table qui disait « Venez, c'est pour vos jardins ». L'or est en fait dans la terre. Donc, et en fait, on s'est aperçu que ça est parti. Au bout de 3 mois, c'était rasé comme c'était au début, avec une pelle qui est restée là. Et par contre, le projet que nous avons aménagé avec un collectif de permaculture qui est à côté, donc à côté de ce musée-là, il existe une zone autonome de Metelkova, qui est une zone squattée. Nous avons aménagé avec chorégraphes qui ont travaillé sur les approches entre le corps, migration et les graines et les plantes. Ce jardin-là, qui était là aussi, en fait, c'était un jardin avec les plantes édibles, comestibles, donc aussi avec l'invitation que les gens puissent s'en servir. Donc chaque fois, c'était vidé. Pendant l'été, parce que c'était l'été. À la fin, quand j'ai posé la question à la direction, est-ce que ce jardin puisse rester, la réponse était niet. C'était non. Or, c'était une petite geste de couvrir, par exemple, pendant quelques mois avec la paille, et ensuite, ça renaîtrait ensemble avec les artistes. Elles étaient prêtes de revivre quelques mois après ce jardin. Ça peut apparaître un peu naïf, mais moi, ça m'a fait une coupure dans le sens où j'ai décidé de... Si je me lance dans les projets qui travaillent avec ces énergies-là et avec ces buts-là... je dois d'abord m'assurer que l'institution est prête de penser à la longévité et comment mettre en place en fait que ce type de projet ont une possibilité de survivre après une fois que l'événement est terminé. Donc, ce qui m'a mené donc à ouvrir le temps de la Biennale de Contour que j'ai appelée Colton is Cotton puisque ça vient de poème de Saul Williams, le slammer et musicien américain. Ça, c'est le texte de son poème, où il approche le coltan, comme vous allez voir, ce minéral qui est dans tous nos ordinateurs, dans tous nos smartphones, qui vient dans 63% de Congo, des minéraux qui sont... c'est un des conflict minerals, donc ça veut dire que les gens se font tuer presque chaque jour pour les profits. Les enfants y travaillent, c'est très minutieux, il faut gratter pour obtenir ce minéral-là, cet élément-là. C'était pour, en fait, pour continuer ma pensée d'avant, donc j'ai décidé d'ouvrir le temps de la Biennale à un an, presque un an et demi, où il n'y a pas une exposition finale, et il y a 3 moments publics qui sont alignés avec les diverses phases de la Lune. Donc il y a une phase de premier croissant, la phase de la pleine lune qui s'est passée en mai et la dernière phase qui sera le dernier croissant au mois d'octobre. Et chaque fois, c'est un moment fort de 3 jours où nous présentons les recherches où les recherches se situent dans le temps, où les artistes ont aussi en fait besoin de se confronter au public ou présenter en fait les phases où la recherche se trouve. Ça, c'est par rapport au format, parce qu'on a presque tous les projets ont un ancrage soit social, soit économique, soit culturel, qui est basé donc à Mechelen, qui est cette ville. Je viens maintenant, donc je vais revenir pourquoi je fais ça, mais ça c'est lié évidemment à ma réflexion par rapport à comment on travaille. Donc on utilise tous les ordinateurs qui finissent. Les trois plus grands déchetteries sont, ou les trois plus grands champs de déchets électroniques sont Ghana, Chine et Inde, où vivent les communautés qui espèrent ils ont une espérance de vie à 35 ans parce qu'ils brûlent les minéraux pour être recyclés, etc. Donc ça c'est nos ordinateurs où ils finissent. Et comment j'ai lié ça, cette pensée, comment travailler différemment, c'est en fait en me penchant sur l'histoire de Mechelen, cette ville en Belgique, où la Biennale se situe. En lisant, il y avait deux moments clés d'histoire qui m'ont marqué. La première, c'était que c'était le lieu d'où partait la première locomotive continentale européenne. Donc après Angleterre, c'était à Mechelen d'où elle partait vers Bruxelles et puis vers Anvers, Antwerp. Donc là, c'est par exemple une peinture locale qui montre la locomotive. Et un autre moment de cette ville fort, c'était entre 42 et 44, où les Allemands nazis ont mis ici, dans ce bâtiment-là, le groupe de. C'était le camp de regroupement avec les tortures quotidiennes. Pour les personnes d'origine juive et roma ou homosexuelle. Et d'ici, ils sont partis directement à Auschwitz pendant la durée de 3 ans. 1% est survécu. Ça veut dire qu'il y avait 25 000 personnes qui étaient regroupées là. Et quand on lit pourquoi, c'est à cause de la railway. Parce que le réseau des trains, à cause de cette vieille mise en route du réseau, était tellement bien développée qu'ils se sont servis de ça. Et quand on pense à ça, évidemment, on revient tout de suite au travail typique colonial, qui est de d'abord mettre les routes pour transporter, pour extraire le labeur, donc le travail humain, et puis extraire évidemment les richesses minières. Ça, c'est un collage fait par Daniela Ortiz, qui est une des artistes, et que je me sers aussi pour reparler de coltan. Coltan, qui est donc ça, c'est le palais de justice de Bruxelles, qui a été érigé vers la fin de la 19e siècle, à le moment où c'était donc déjà le règne de Léopold II. Et en bas, c'est une mine à ciel ouvert. Je crois qu'elle vient de Pérou. Mais si vous regardez, par exemple, dans cette photo de Sami Baloji, qui montre, c'est une mine de cuivre. Les mines de coltan ressemblent beaucoup à ça. C'est pour ça que j'ai mis ça en relation. Parce que, donc, où le coltan auquel nous dépendons pour travailler de la façon dont nous travaillons, donc d'être en ligne, etc. Beaucoup de coltan se trouvent au nord de province de Katanga, où Patrice Lumumba a été assassiné en 61. Donc du coup, pour revenir en Belgique, où se situe la ville de Mechelen, j'ai voulu mettre vraiment en relation le passé colonial dont Belgique travaille beaucoup en ce moment pour le faire vivre plus de la manière publique, or avec beaucoup de difficultés, et de se aussi poser les questions sur comment la pensée écologique ne peut pas être faite sans la pensée, par exemple, sociale, antiraciste, antisexiste, comme Elisabeth Povinelli appelle ça « entangled existences », c'est en fait une chose ne peut pas être pensée ou parlée sans que nous évoquons un autre concept ou un autre mode d'existence. Voilà, c'est... Après, je peux revenir parce que j'aimerais bien donner
la parole. Oui. Bon. On va passer la parole à Wagner.
Oui, bon, merci. Bon, merci beaucoup pour l'invitation, Raquel, Catherine. Bon, merci. Je suis désolé, j'étais pas là ce matin. Je viens d'arriver du Brésil, directement de São Paulo. Je viens d'arriver et ça faisait 30 jours que je ne voyais pas ma fille. Je crois que c'est pour ça qu'on était vraiment collés. C'était la retrouvaille ce matin. C'est ça. Bon, j'ai une trajectoire personnelle, artistique et académique très diverse de celle de Natacha. Et de ma part, je crois que c'est précisément pourquoi c'est très intéressant de partager ces moments avec elle, avec vous. J'ai un parcours totalement errant qui n'a rien à voir avec cet idéal français du parcours royal académique ou professionnel. Je suis artiste visuel, mais je n'ai pas étudié aux Beaux-Arts ou quelque chose d'équivalent. Je travaille comme réalisateur et documentariste, mais je ne suis pas allé à l'école de cinéma non plus. J'ai déjà fait pas mal de projets comme commissaire indépendant, mais cela n'a jamais été configuré comme une profession stricto sensu pour moi. Je suis allé à l'université pour étudier l'anthropologie, mais je ne suis pas anthropologue non plus. Finalement, je viens de soutenir un doctorat à Paris 3, mais je ne me considère pas quelqu'un de l'académie. Alors, je crois que cette formation rhizomique a forgé un profil très particulier de personnes qui a pour l'habitude de développer des projets aussi rhizomiques, même randomisés. Des projets qui s'y constituent et acquièrent une identité au long de sa réalisation. Hein. Et c'était le cas de La Maudite. Je vais raconter un peu l'histoire de La Maudite ici. À la fin de 2013, quand on a commencé La Maudite, j'avais déjà travaillé comme commissaire invité à la Biennale de São Paulo, ainsi que dans plusieurs d'autres projets, toujours de manière indépendante, autonome et personnelle. Mais La Maudite a été quelque chose de spécial et très particulier. Aujourd'hui, je considère l'expérience de La Maudite comme une œuvre d'art collective, collaborative et en constante évolution. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Hein? Je vais parler un peu des débuts du projet. Je parlerai au passé parce que même si je considère que La Maudite existe encore, on pourrait dire que le projet se trouve aujourd'hui dans un mode d'attente. En gros, La Maudite était un artist run space créé par des artistes, chercheurs, moi et Béatrice Toledo qui est là, et une commissaire, Camila Béchalani, aussi chercheuse. Nous étions des Brésiliens qui vivait à Paris depuis quelques années, un peu dépaysé, un peu mécontent avec la vie d'artiste étrangère, très isolé et toujours labellisé et stéréotypé, ici à Paris. On voulait trouver une place pour nous, alors de faire des choses qui nous plaisaient. Alors les grandes lignes du projet visaient à articuler les pratiques artistiques, les pratiques de conservation et commissariat et la recherche. On était situé dans les quartiers de Belleville, un lieu choisi pour sa particularité d'effervescence dans la scène artistique contemporaine de l'époque. Il y avait à cette époque-là au moins 30 lieux, entre galeries d'art, espaces d'art indépendants, librairies, qui fonctionnaient dans les quartiers. Il y avait même un réseau appelé les Grands Belleville, une plateforme qui reliait tous ces lieux et qui constituait une sorte de contrepoint aux galeries mode d'emploi, qui étaient les réseaux avec les galeries les plus traditionnelles, les plus aisées, mieux établies de la ville de Paris. On fonctionnait comme une plateforme de projets artistiques et multidisciplinaires dans divers domaines, arts visuels, films, expériences sonores, performances, littérature, recherche, entre autres. Dans l'espace, on a organisé des activités comprenant les expositions temporaires, des projets de projection des films, organisation des conférences, des séminaires et d'autres activités de recherche. Nos ambitions étaient grandes. La Maudite visait à promouvoir des activités au niveau local, national et international, en collaborant avec des institutions publiques et privées, impliquant les artistes et un large éventail de communautés pour lancer des réseaux créatifs. Aussi, et ça c'est très important, on était un centre de documentation sur l'art contemporain brésilien. Ce centre était alimenté en permanence par des dons. Hein, et je dis que cela est très important parce que c'était les coups de pied initiales du projet. Hein. Au début, avant d'avoir l'envie de créer un espace d'exposition, on voulait créer un centre de documentation. Parce qu'on voyait les centres de documentation, ces centres de documentation, comme un acte de faire face, une vraie prise de position. Parce qu'en étant artistes brésiliens en France, nous avons ressenti le besoin de créer un lieu de référence sur l'art contemporain brésilien, simplement pour aller contre une vision stéréotypée, et pourquoi pas même coloniale, à propos du milieu de la production artistique du Brésil et de l'Amérique latine. C'est une autre discussion, on peut reprendre ça à la fin. Hein. Mais pour parler un peu plus du centre de documentation de la Maudite, on avait un certain nombre de catalogues d'exposition, des livres d'artistes, des magazines indépendants, des zines, des portfolios et d'autres publications sur l'art brésilien, ainsi que du matériel audiovisuel. C'est un ensemble de matériel qui n'existait pas dans les bibliothèques ni dans les librairies françaises, mais qui est une source de recherche fondamentale. Notre objectif était donc de créer un centre qui serait une référence pour la recherche sur l'art et sur les artistes brésiliens à Paris. Il s'adressait en particulier aux artistes, aux chercheurs, aux commissaires et à tous les galeries intéressées par les sujets. Nous commençons avec les dons reçus par des artistes, des conservateurs, des galeristes, des musées et des chercheurs brésiliens. La collection grandissait et devenait de plus en plus complexe. Alors, ces centres étaient la première étape. Et cela a été très important pour nous donner du courage et de l'énergie pour commencer. Comme cette collection de documents a été faite par des dons, nous avons rapidement réalisé l'acceptation du projet auprès de nos collaborateurs brésiliens. Car nous avons très vite obtenu un matériel sensationnel, assez énorme. Ainsi, nous nous sommes sentis légitimés avec cette sensation qu'il y aurait un réseau de soutien important pour la réussite du projet à cause de ces centres de documentation. Et je pense que cela a été prépondérant pour que nous ayons le courage de trouver un espace physique et de faire face à l'expérience de créer un vrai lieu d'exposition et de travail. Je ne sais pas si je commence à parler de la Maudite, montrer quelques images.
Bien sûr.
Alors, il faut... Bon, je vous préviens que nous avons eu un bon bilan. Pendant 3 ans de fonctionnement, on a fait 13 expositions, entre solo show et expo des groupes, 31 événements, séances de films, discussions, lancement des livres, colloques, séminaires. On a eu 13 personnes qui ont travaillé directement avec nous en tant que stagiaires ou collaborateurs, et plus de 120 personnes, artistes, plasticiens, auteurs, cinéastes, critiques et commissaires, qui ont passé d'une manière ou d'autre dans notre programmation. Il faut dire, sans garder la modestie, que la programmation de la Maudite dans cet petit espace était beaucoup plus intense que la plupart des galeries des centres culturels de la ville de Paris. Quand on voit ces chiffres, on s'est dit, on a fait beaucoup de choses dans un petit espace indépendant. Donc, je vais donc vous parler très rapidement de quelques expos phares, en commençant par la première expo d'Anna Mazzei. Alors, on a choisi Anna Mazzei pour ouvrir l'espace d'exposition de la Maudite parce qu'elle était quelqu'un dont le travail nous a plu. Parce qu'il s'agissait des œuvres simples, vous pouvez regarder, presque précaires, qui correspondaient à une certaine hâte de notre part de commencer les activités, même en étant nous aussi précaires. En outre, c'était la première fois que l'artiste s'exposait hors du Brésil, et pour nous, cela était une sorte de pari. Dans sa,
dans sa carrière. Ici, dans ces images, on peut voir que la hâte et la précarité nous ont amené à une formalisation très carrée, finalement, et standard de l'espographie. C'est, en fait, ça fait galerie d'art, pas espace indépendant d'art. Ça fait vraiment... C'est net, c'est clean, mais c'est beau quand même. 5 mois après, on a commencé à oublier cette histoire de montrer qui est des artistes brésiliens. Nous sommes rendus compte que l'idée des nationalités et des frontières ne pouvait pas être quelque chose de limitant. Après tout, nous n'étions pas nationalistes. Il y avait toutes ces questions de migration, des frontières, des réfugiés ici en Europe dont nous nous sommes confrontés tous les jours. Alors, c'était un peu bizarre de faire ces choix. On va montrer qui est des artistes brésiliens. On a abandonné cette idée assez vite. Et après 5 mois, on a invité la commissaire Estelle Nabera à faire un projet, un partenariat avec la galerie Emmanuel Hervé, dont il y avait des artistes de plusieurs nationalités. Le titre de cette expo était une phrase du livre Macunaïm, un chef d'œuvre de Oswald Andrade, un auteur mythique de l'imaginaire brésilien, même au niveau international, c'est quelqu'un de très connu. L'expo s'appelait Carne de minha perna, la chair de ma jambe. Il y avait 19 artistes dans cette expo-là. L'expo a pris la forme d'un essai curatorial et visait aborder l'idée anthropophagique comme tentative de problématisation de la relation Brésil-Europe et de son activation dérivant du thème de la dualité. La question d'Estelle Nabera s'adressait vers la possibilité de relier les motifs anthropophages à la problématique de la différence de l'altérité, ainsi que de questionner des valeurs occidentales. Selon les textes de présentation de Nabera, entre guillemets, il faut avant tout comprendre ces étranges faits. L'idée d'anthropophagie est un aperçu de la réponse à la relation conflictuelle entre éléments locaux et étrangers, entre intérieur et extérieur. L'action de manger, avaler et digérer implique une transmutation de celui qui mange. Par conséquent, il n'y a pas d'intérieur qui ne soit formé de ce qui vient de l'extérieur. C'était Estelle Nabera qui a écrit dans le texte de présentation. Voici quelques objets, quelques vues de l'expo. On a utilisé une partie du centre de documentation dans l'expo. Elle a amené de nouveaux bouquins, de nouveaux matériels qui, pendant l'expo, étaient là dans cet espace. C'était une partie de notre centre de documentation. Avant, il était tourné vers l'intérieur et pour l'expo, on l'a détourné et c'était une façon d'incorporer à l'espace expositif. Je continue avec une autre exposition que je crois que c'est très représentative de notre parcours. C'est une expo de l'artiste Chico Tognier. 6 mois après l'expo d'Estelle Nabera, on a ouvert une autre expo qui, à mon avis, actualise toutes les questions qui ont été soulevées par l'expo Carne de minha perna de Nabera. C'est l'expo de Chico Tognier qui avait comme titre Nothing Like the Good Old Oil. Un titre un peu bizarre. On a fait une invitation très particulière à Chico Tognier, artiste brésilien, qui était de passage à Paris pour faire un travail. On lui a demandé de fabriquer des choses qui nous manquaient ou qui nous avons besoin dans l'espace. Par exemple, des étagères pour les centres de documentation. Voilà, les étagères de Chico. Un gradin et une scène pour des séances et des discussions. Un comptoir de bar pour les vernissages. Voilà. Et une alcôve sadomasochiste pour les sous-sols. On va voir ça. C'est les comptoirs. Voilà la petite scène. sympa. On fait pas mal de choses là. Et les comptoirs, ils se tournaient, ils devenaient ingrats. On va voir ça. Alors, demande faite, commande servie. On a tout fait ensemble et tout était si bon que nous avons décidé que les expositions à venir ne devraient pas tarder. Voilà les gradins. Avant, ils étaient les comptoirs. On les tournait, ils devenaient un gradin pour, avec le public. Ça, c'est un espace pour l'audience regarder concerts, discussions. On a décidé que les expositions à venir devraient partager l'espace avec ce que Chicoutoy avait fabriqué avec nous et pour nous. On partait alors vers une idée d'accumulation. Toutes les expositions futures devraient rester dans l'espace, en les partageant avec ce qui viendra plus tard, après. L'idée était cool, mais ça n'a pas duré longtemps, car nous avons décidé de changer d'adresse. Dans cette proposition, on a fait l'expo de Anna Pratt. C'était la prochaine expo. Je vais juste montrer la coiffe sadomasochiste, parce que les gens peuvent être curieux. Voilà. Je vais démontrer la prochaine expo.
Voilà. Ah non.
C'était un ambiance. C'était dans la cave de la galerie. Dans cette proposition d'accumulation, on a fait l'exposition d'Anna Pratt. Et plusieurs événements en utilisant les pièces de Chico, parmi lesquels je mentionne le cycle organisé par Arnaud Elfort, intitulé Bronze et ciment dans la construction des pistes. C'est une série de trois conférences sur le vandalisme, dont les matériels visuels utilisés par Arnaud s'accumulaient sous les murs dans une sorte d'accrochage en plusieurs couches, qui à chaque samedi grandissait, augmentait, s'enrichissait. Bon, je n'ai pas d'image de cet événement, mais pour vous montrer, je suis désolé, j'ai quelques images de l'expose de Anna Pratt qui partage l'espace avec les œuvres de Chicoutoy. Voilà, là, ça c'était l'étagère, le dessin de Anna Pratt. C'était un projet intéressant, c'est dommage qu'on a dû changer d'adresse après, parce que cette idée d'accumulation était très forte. Était très forte pour vous.
Le même espace,
toujours. Là, c'est l'étagère de Chico avec quelques dessins de Anne. On a changé les objets, on les déplaçait un peu dans l'espace pour faire des places, pour partager les murs, tout ça. C'est bizarre. Voilà, il y a un objet de Chico. La petite. Le cochon qui était au sous-sol, il est venu pour le premier étage, pour le rez-de-chaussée. Je voulais montrer plutôt les situations de partage d'espace. Un objet de Chico avec le dessin d'Anna. Voilà. C'était des décommunications, c'était juste le début, mais ça s'arrêtait là. On a déménagé dans une rue pas loin, et dans les nouveaux espaces, on a fait 4 expositions, dont je parlerai d'une en spécial pour conclure. Il s'agit d'une expo collective intitulée « Tout doit disparaître ». On a réussi de faire une expo collective avec 20 artistes dans une salle de 30 mètres carrés. On a invité tous les artistes avec qui on avait travaillé les deux dernières années. Et pour abriter un si grand nombre d'artistes, une idée de logement, d'hébergement, du chaos est venue et elle a pris la forme d'une vieille étagère IKEA qui a été trouvé dans la cave de notre maison à l'époque. L'étagère, c'est une structure conçue pour abriter et ordonner le chaos, ainsi que pour fabriquer le désordre. C'était notre point commun, une traduction de comment on pensait à la maudite. Un lieu hybride, un lieu de discussion, de confrontation et d'ouverture. Alors pendant la semaine de montage, les artistes sont venus tour à tour mettre en scène une ou plusieurs de leurs œuvres. Les objets, c'était des photographies, sculptures, vidéos, dessins, etc. sont réunis au centre de l'espace dans cette structure commune qui a finalement devenu une sorte d'installation collective qui définissait une zone d'intensité d'échange. Voilà une vue générale plus intéressante. Alors, tout doit disparaître. L'expo montre, il pense à la circulation des œuvres et des artistes. Non pas dans un but commercial, celui de la circulation de l'argent, mais dans une logique où les énergies individuelles se rejoignent pour créer de nouveaux espaces de construction et de réflexion. Tout doit disparaître pour réapparaître plus tard dans un autre espace, un autre temps, un autre moment, et ainsi éternellement dans un cercle virtueux, excessif. Bon. Après quelques mois, nous sommes trouvés obligés, un peu obligés par des contraintes économiques, de fermer l'espace physique et de désactiver les centres de documentation aussi. On a commencé alors à réfléchir sur de nouvelles manières d'existence. Errant, itinérant, parasitaire, numérique, ou même sous la forme d'une publication. On a fait quelques événements itinérants, on a essayé le parasitisme, mais les activités se sont peu à peu arrêtées. Aujourd'hui, je crois que la maudite existe toujours, parce que nous sommes encore vivants. Ces gens ont des projets collectifs, je crois qu'ils ne meurent jamais. Je crois qu'ils persistent avec Chico Togni, quand il fait son travail, avec Anna Pratt, avec tous les artistes qui ont travaillé avec nous. Je suis sûr qu'ils persistent avec Béatrice, dans ce qu'elle fait aujourd'hui. Et bien sûr, je sais qu'ils persistent avec moi, dans mes projets que je réalise maintenant au Brésil, à São Paulo. Bon, avant de vous passer la parole, continuez. Catherine et Raquel m'avaient demandé de dire quelque chose à propos des tendances curatoriales actuelles. Malheureusement, je ne sais pas répondre à ça. Mais comme quelqu'un qui travaille dans les champs d'art visuel et qui vit au Brésil aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire, à penser ou à réfléchir. Sinon, de manière militante. Je crois que peut-être une tendance nouvelle, c'est une chose vieille. Le militantisme, on dit ça en français, militantisme. Je crois que si on est artiste, je parle comme artiste brésilien maintenant, parce que j'habite plus à Paris, j'habite là-bas, à São Paulo. Il faut localiser son travail. Je crois que si on travaille dans l'art visuel, comme commissaire, comme artiste visuel, comme réalisateur, il faut être militant contre les gouvernements actuels, contre la destruction qui est en train d'être faite, contre le militarisme, contre le fascisme, contre cette famille, je ne vais même pas dire les noms, qui commence une destruction incroyable dans les pays, dans les arts, dans les champs des arts visuels, dans l'écologie, dans les communautés indigènes, dans les communautés LGBTQI, dans presque toute l'université, l'éducation. Et aussi, il faut toujours se positionner pour la libération de Lula. C'est aussi une autre question importante pour moi. Alors, c'est toujours ça. Et à partir de ce moment, je crois que c'est très important aujourd'hui que le militantisme soit une espèce de tendance même. Même si, sans être un genre, mais une tendance, une vraie tendance. C'est impossible de faire de l'art, de faire une image sans prendre une position aujourd'hui. Je crois que c'est très important. À ce moment-là, Je travaille dans un projet à São Paulo, c'est une création d'une école itinérante d'art où on mélange des notions de commissariat, de production, de documentaire, de centre de mémoire. On essaie de produire des choses où il existe déjà dans les communautés périphériques, où il y a la plus grande richesse culturelle de São Paulo, c'est dans les quartiers périphériques. Alors, c'est ça que j'ai fait maintenant. C'est pas, je ne suis pas lié à une institution, à un musée, à une galerie. Je suis dans cette démarche-là, plus dans les champs de dans la production culturelle et réflexion, même dans les champs.
Oui, oui. On a un temps très court d'échange. Peut-être que...
Oui, parce que ça joint directement ce que je... Par rapport au devoir, presque. Je sais que ça sent, comme tu dis, militant, mais on vit dans les temps qui ne nous laissent pas... moi, je pense, sincèrement, comme toi, nous ne laissent pas d'autre choix. Mm-hmm. Parce que tout ce que nous faisons est fait dans ce contexte dans lequel on vit, soit ici, soit au Brésil. Comme j'ai dit avant, pour moi aussi, les choses sont entrechevées, entrechevauchées, entangled, pardon, entrechevées.
Ouais.
Entremêlées. Et c'est pour ça aussi, donc je finirai avec ça, je crois énormément à... Non, c'est pas annulé, supprimé pour l'instant, mais... J'aimerais bien revenir à vous montrer ce que j'ai initié parce que j'y crois à la nécessité qu'en tant que les travailleurs dans la culture, on intervient là où tout commence et c'est l'éducation. Donc c'est l'éducation dans les académies, dans les universités, etc. Et avec ces questions-là, j'ai fondé une alliance à la Biennale de Contour, suite à la connaissance, aujourd'hui il n'est plus avec nous, Bram Krevitz, c'était un collègue à moi qui s'est suicidé il y a un an, qui était fondateur d'une unique cours de Open Design for Asylum Seekers and Refugees à l'école d'art à Gand. En parlant avec lui, nous avons initié en fait ensemble cette alliance qui s'appelait We Cannot Work Like This, Decolonial Practices and Degrowth. Et nous avons invité nombre des écoles qui sont basées en Belgique. Il y avait une de France, il y avait une de Londres. C'est des écoles d'art, d'architecture, de graphisme, de communication interculturelle. Il y avait un petit satellite qui venait de Hong Kong, qui était lié, donc c'était les architectes et artistes liés beaucoup avec Royal School of Architecture à Londres. Et on leur a posé pendant toute l'année, et avec les professeurs et leurs professeurs et avec les étudiants dans leurs cours, on a posé une question simple, c'était comment vous pourriez transformer vos pratiques, vos méthodes de travail, vos matériaux, vos pratiques pour qu'ils deviennent anticoloniales, décoloniales, antiracistes, antisexistes, inclusifs, donc, et surtout écologiques dans le sens de durabilité des matériaux, etc. Donc du coup, on s'est rencontrés plusieurs fois dans l'année. Ça, c'était par exemple l'exposition des étudiants de Open Design Course à Gand. À Londres, on a organisé ensemble une rencontre inédite entre les activistes de Justice for Grenfell Tower, donc le fameux tour qui s'est écrasé, et qu'aujourd'hui, il y a trois femmes qui mènent ce collectif qui essaye de pointer avec le doigt le who was the accountable for, donc qui est le coupable ou la coupable. Et donc les militants se sont rencontrés avec les étudiants qui, ensemble avec les travailleurs de sécurité ou des cleaners, comment on appelle le personnel de nettoyage, on a organisé cette rencontre. Donc par exemple, moi, cette image, elle concentre tout sur lequel moi, en tout cas, en tant que commissaire d'exposition, dois travailler. Who keeps the cube white? Je trouve que c'est une question. Par exemple, quand j'y vais, je travaille avec quelques musées en ce moment aussi pour l'exposition de Delphine Seyrig. Avant, jamais j'ai posé, pas osé. C'est pas que j'ai pas osé, c'était que ça n'arrivait pas à ce point-là. Aujourd'hui, je leur pose la question: est-ce que vous connaissez les noms de votre personnel de nettoyage? Est-ce que vous connaissez d'où il vient? Est-ce que vous connaissez leur salaire? La question, la plupart, c'est non. Ou pour la sécurité, c'est pareil. Donc du coup, pour le personnel de sécurité, et je trouve que c'est des questions, si on veut appartenir à, ou si on veut appartenir à une pensée, comment changer nos structures, nos façons de travailler, c'est ces questions-là qui doivent être posées aussi. Donc, voilà, c'était pour finir.
Bon, j'avais un certain nombre de questions à vous poser, et je pense que dans la salle aussi, malheureusement, on a dépassé le temps, mais c'était très riche dans ce que vous avez tous les deux exposé, et puis la plupart de mes questions avaient déjà été répondues. Donc je vous invite à rester, enfin on va faire une pause déjeuner, mais au retour on aura un temps d'échange autour des 16 heures où on pourra retourner pour réaborder ces sujets. Après le déjeuner, il y a une autre table ronde, la table ronde qui est censée commencer à 14h30 avec Federico Rossini et Raphaël Neuger. Et ensuite, on pourrait. Enfin, et ensuite, il y a une table de travail collective où ces questions reviendront certainement. Et où on pourra continuer cet échange. Donc, je m'excuse, je ne peux pas ouvrir la parole à la salle. Si vous avez des questions pendant les déjeuners ou après 16 heures à la séance des travaux collectifs, on peut les aborder. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup.